La vie secrète des Geekettes est une fière présentation de la cidrerie Beaupré. La gamme de produits Beaupré est certifiée Aliment Québec. Faite de pommes du Québec, elle offre une variété de produits diversifiés pour tous les goûts et sans gluten. Le cidre Beaupré est disponible dans les épiceries et dépanneurs. Visitez leur site web cidrebeaupré.com. Bonjour et bienvenue à La vie secrète des Geekettes, un podcast geek au féminin avec Fanny et...
Constance!
Hey, c'est quoi ça, La vie secrète des Geekettes? C'est un podcast animé par deux filles, des fois plus de filles aussi. On est là une fois par mois, puis on vous parle de divers sujets diversifiés et aussi de toutes sortes d'affaires.
C'est beaucoup de variétés.
Oui, oui! J'ai été très... j'ai fait une entrée assez différente. Salut, Constance!
Bonjour, bonjour, bonjour!
Ça va bien?
Ça va très bien, toi!
Oui, là, aujourd'hui, on essaie quelque chose de nouveau. On est dans mon salon avec deux animaux qui sont un petit peu en train de jouer des fois, un chat et un chien. C'est mes animaux à moi, puis ça se peut que vous les entendiez une fois de temps en temps.
Donc... C'est drôle parce que le chien, on dirait qu'il a l'apnée du sommeil, c'est un petit pug, là, puis il est juste comme...
Ouais.
C'est ça, c'est bien cute.
Ouais, puis aujourd'hui, c'est ça, on est moins Constance, encore une fois. Mm-hmm. Puis on va parler de divers sujets, évidemment le courrier du cœur, la Switch et ta bitch, on va vous parler, moi je vais parler de Paper Girl, la bande dessinée, puis toi tu vas parler de quoi Constance?
Moi je parle d'un show Netflix qui a fait pas mal la une il y a quelques semaines déjà, Wild Wild Country, la série documentaire.
Ouais, puis aussi moi j'ai des nouvelles à la fin de l'émission, donc si vous voulez les écouter tout de suite, c'est un podcast. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais sinon, écoutez notre show avant, ce serait bien le fun.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, on commence ça avec le courrier du cœur.
Wouhou!
Pour le courrier du cœur ce mois-ci, j'ai décidé que j'allais vous parler d'un article que j'ai lu dans Les Affaires. Mm-hmm. Wow! Hein, le courrier du cœur et Les Affaires, ça fit bien ensemble, hein?
Ben, il faut croire qu'il y a un lien!
Puis, c'est un article que j'ai lu cette semaine. Puis, je trouvais ça bien intéressant. C'est le fondateur de OkCupid, qui est un grand mathématicien et statisticien qui... oui, étonnamment! un gars qui a fait un site web sur les rencontres qui a parlé des statistiques sur justement comment qu'on... c'est à qui les profils des utilisateurs, puis qu'est-ce qu'ils recherchaient sur ces sites de rencontres-là, puis s'est rendu compte que, écoute, ce qu'on veut... Mais en fait, il disait que c'était pas probable de rencontrer l'enfer avec les sites de rencontres selon ce que les gens désiraient.
Mais c'est sûr que si les gens partent à la base avec un, comment je peux dire, un pattern, des fois, il faut dériver du pattern pour pouvoir obtenir ce qu'on veut.
C'est ça. Puis il y a beaucoup de patterns. Il a trouvé, entre autres, que souvent, en fait, c'est une statistique, c'est que les femmes, ils voulaient un homme du même âge qu'elles, que c'est à peu près le même âge qu'ils recherchaient. Là, c'est sûr, j'ai pas toutes ces données. Moi, je me suis posé la question, OK, y a-t-il un territoire de qui qu'on parle? Est-ce qu'on parle les Canadiens, les Américains? D'après moi, c'est les Américains, mais
Probablement. Nos habitudes de dating sont quand même semblables aux Américains. C'est pas comme si on était d'une culture complètement différente. Là. C'est sûr que s'ils avaient comparé avec les Émirats arabes unis, ça aurait été d'autres choses.
C'est ça, exactement, ta culture, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui influencent.
Oui.
Mais en gros, ce qui a ressorti là, sa conférence, c'est ça, que les femmes cherchaient quelqu'un du même âge, mais que la plupart des hommes cherchaient une femme de 20 ans et moins. C'est un gros cliché, là! Je m'attends à me faire pitcher des roches, mais c'est pas moi qui le dis, c'est lui, là! C'est un gars qui a sorti des statistiques, il dit « voici ce que les hommes recherchent en général, et voici ce que les femmes recherchent, pour ce qui est de l'âge! »
Oui.
Fait que là, déjà, ça matche pas. Puis là, on s'entend, c'est des hétérosexuels aussi, là, c'est c'est dans ce bassin-là qu'il a cherché, un peu plus classique. Puis aussi... Puis là, il disait que, bon, à cause de ça, le coup de foudre, c'est impossible à cause qu'on veut juste pas la même affaire.
Ben, c'est ça. Mais donc... même ce qui est fascinant, c'est que même dans la vraie vie, c'est ça. Je vais prendre l'exemple des hommes dans la crise de la 40-50aine qui vont aller chercher justement l'aventure avec une petite jeune, puis...
C'est pas compliqué!
C'est ça, mais...
Bubbly girl!
C'est que ça marche pas non plus, c'est rarement des relations qui restent bien bien longtemps, parce que la jeune, après ça, fait comme, ben on a aucun point en commun, il est bien trop vieux! Puis ça termine là!
Ben ouais, souvent c'est... Puis moi j'en ai connu beaucoup d'histoires comme ça d'amis que, tu sais, ils ont essayé, puis finalement ça fonctionne pas malgré la différence. C'est poche, là, mais c'est comme un cliché, mais les clichés, ça part de quelque chose aussi.
Ben oui.
Donc, c'est ça. Puis souvent, c'est ça qu'il disait, là, de... Dans le fond, je veux dire son nom. Je l'ai même pas dit. C'est qui, ce monsieur-là? C'est Christian Rudder. C'est le cofondateur de KeyCupid.
OK.
Il est diplômé de Harvard aussi.
Mm.
Donc, ce petit monsieur-là, c'est ça. Il a sorti cette statistique-là, puis il disait comme quoi que... Comment veux-tu qu'une femme qui a genre 35 ans, qui a un enfant divorcé, comme... Il dit, c'est comme statistiquement impossible, là, à ce moment-là. C'est un peu triste, un peu, là, comme
oui,
constat.
En effet.
Puis aussi, elle dit, moi, j'allais voir sur Tinder, c'est quoi, là, comment, tu sais, comment ça fonctionne, tout ça, j'allais voir les statistiques de Tinder. Puis, il disait, il a été vérifié sur les notes, il a remarqué que la moyenne des notes, sort qu'il y a des notes maintenant, je sais pas trop. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas été là-dessus.
Je j'ai pas embarqué sur Tinder, ça fait 4 ans que je suis avec mon chum, mais ça va très bien.
Puis moi, ça
que
fait
j'ai re... ben, que j'ai... Non, j'ai pas rencontré sur OkCupid, mais OkCupid a validé notre relation.
Hey, moi aussi, c'est ça?
Ouais.
Qu'est-ce qui est arrivé là-dessus?
Ben, c'est qu'on se connaissait depuis 7 ans, mais il a accidentellement cliqué sur mon profil. Fait que moi, je suis faite comme « ha ha ha, t'es célibataire » sur Facebook. Puis on a commencé à se jaser à nouveau à ce moment-là. Puis on a eu une date, deux dates, trois dates, puis on a fini ensemble. Puis quand je suis allée fermer mon OkCupid, je suis allée vérifier on était quel pourcentage qu'on avait de connexion, puis on était à 96%.
Wow!
Ouais.
C'est drôle, c'est la même chose, moi et mon copain aussi. Là, on a l'air de faire une pub pour OkCupid, là, mais... Moi aussi, comme c'est sûr qu'on s'est rencontrés à cause d'amis, mais on a été se parler sur OkCupid parce qu'on était voir nos profils, puis on avait une statistique de 90% et plus, une affaire comme ça aussi. Là. Fait que c'est quand même drôle, là.
Merci, oh. Monsieur Christian.
Oui, merci, Christian. Puis bon, sur Tinder, c'est ça, il disait que la note sur 10 que les hommes donnaient aux femmes, c'est une moyenne de 4 sur 10. Qui est pas super bonne. Hein,
non,
qui est
en
comme,
effet.
Oh, ben voyons. Puis c'était. Oh oui, les notes allaient de 1 à 8. Non, attends, oui, c'est ça. En moyenne, c'était 1 à 8 qui donnait.
Mm-hmm.
Mais comme la moyenne en tant que telle, c'est 4 sur 10. Donc, tu sais. C'est pas
ben,
super, mais.
C'est peut-être parce que les dick pics, ça fait baisser la moyenne. Je dis ça de même, là. Il y a des bonnes chances que tu te ramasses avec un 0 sur 10 si t'envoies une photo de pénis mais ça, après bonjour.
Ouais, mais ça, c'est les hommes. Qui donnait...
sur 10!
Mais check bien ça, retiens ce que tu viens de dire, j'enlève pas ça. Les femmes donnaient 0 sur 10.
Ben justement, parce qu'ils ont reçu des dick pics. Mais c'est qu'il y a aussi... Bon, t'as probablement remarqué ça aussi de ton côté, quand on était sur la dating scene, c'est que il y a un... Comment je peux dire? L'intérêt à remplir son profil n'est pas du tout le même du côté des femmes et des hommes. Tu sais, on va arriver avec des profils très, très détaillés du côté des femmes. Puis les hommes... quasiment rien de rempli, là. Moi, c'était ça.
Tu parles de Tinder ou OkCupid?
OkCupid, là, il n'y avait pas beaucoup d'informations, mais c'est ça, j'ai des 15 secondes sur Tinder, là. J'ai vraiment pas d'expérience de Tinder. Mais sur OkCupid, c'était ça, c'est je me faisais approcher par des gars qu'on avait, genre, un 20% d'intérêt, puis ils avaient répondu trois lignes
à leur
profil, puis j'étais comme... Ok, ben non, t'as pas d'intérêt réel. Donc, techniquement, on n'est pas fait pour être ensemble parce qu'on cherche vraiment pas la même chose. Parce que tout clairement, en ce moment, t'es en train de checker pour une relation d'un soir, quelque chose de rapide.
C'est
on
parce que
le voit
je
par le manque d'intérêt que tu as à remplir ton profil.
Mm-hmm. Oh, oui. Bon, c'est sûr que les profils s'en disent beaucoup, là.
Mm-hmm. Définitivement.
Mais c'est ça. Mais sur Tinder, c'est ça. En gros, c'est comme. Il n'y avait pas des bonnes notes, puis c'était comme. C'est ce qui ressort, là, en gros, c'est que les gens ne se donnent pas nécessairement des bonnes notes, là, juste au visuel. Donc, juste se fier sur la photo, ça semble pas être une bonne chose, là.
Non.
Surtout si t'envoies des dick pics, là, tu sais.
Ouais. Petite anecdote, juste comme ça, tu sais, je suis quand même adepte du cosplay, je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont au courant.
Oui,
j'avais un cosplay de Patty puis Selma que j'avais fait. Puis, c'était une photo de 2013 qui s'est ramassée sur Tinder. Il y a une femme qui avait pris une photo avec nous deux, puis c'était sa photo sur Tinder.
C'est donc bien drôle, ça.
Fait que là, j'avais un ami qui était sur Tinder qui m'a envoyé un screenshot. Il disait « Hey, t'es sur Tinder! » Puis j'avais comme « Ben, OK! » Elle essaie vraiment d'attirer des hommes en ce moment en mettant ma face puis la face de mon ami.
Mais c'est drôle ça, parce que ça montre qu'elle est drôle, qu'elle aime le cosplay, que c'est une geek.
Oui, ça c'est sûr que ça expliquait beaucoup de choses, mais tu sais, c'est comme...
C'est
j'ai pas consenti à être sur Tinder. Ben c'est ça, elle aime les Simpsons.
Ça dit beaucoup de choses, une photo, là. On...
Ouais.
Moi, je suis sûre que j'aurais un café avec cette fille-là, puis on s'entendrait bien, tu sais. C'est... Mais non, c'est ça. Mais en conclusion, dans son article, ce qu'il disait, Christian, c'est que, En fait, c'était pas nécessairement les démarches sur Internet qui est importante, mais c'est ce qu'ils ont fait par la suite le monde réel. Parce que c'était super. C'était une conférence qui a rendu les gens un peu tristes et découragés de la vie. On cherche jamais la même chose, puis on pourra jamais se matcher finalement. Mais non, c'est quand on se rencontre.
C'est ça, c'est l'important, c'est ça. C'est la chimie entre deux personnes, puis c'est la communication. Sinon, il n'y a pas... Tu sais, il y a des gens avec qui j'ai eu des discussions merveilleuses sur les sites de rencontres, puis qui arrivaient en personne, c'était d'une platitude incroyable. C'est des gens avec qui j'avais pas de chimie, que j'avais pas de connexion. Fait que ça n'a pas fonctionné.
Ouais, puis tu vois, tu sais, moi, je pense que j'ai déjà dit, mais mon chum, c'est quelqu'un que je connaissais pas, que, tu sais, j'avais comme, tu sais, premier coup d'œil sur les photos, j'étais vraiment pas sûre, puis c'est vraiment quand je l'ai rencontré en personne que j'ai fait « Ah oui, ça clique, là, c'est le fun, c'est un gars le fun », puis j'ai aussi vu des vidéos de lui sur YouTube, fait que ça m'a comme donné une meilleure idée aussi de qui il est comme personne.
Ce qui me fait penser aussi, mon chum n'était pas du tout dans mon pattern. J'avais un idéal physique depuis que j'étais toute petite. Je trippais sur les grands blonds, les grands roux maigres. J'avais vraiment... Puis mon chum, tu sais, c'est complètement l'inverse de ça. Il est un petit peu plus petit que moi. Il est très bâti. C'est un Italien avec les cheveux foncés, barbe forte. C'est vraiment l'inverse de ce que j'avais comme idéal. C'est qu'à un moment donné, tu dis, genre, mais ça va tellement bien. Puis quand tu t'entends bien avec quelqu'un, la personne devient belle, tu sais, c'est ça, mon chum, c'est maintenant, je vais rire avec personne d'autre dans ma vie, puis c'est le plus beau, mais...
Oh, hey, j'espère qu'il écoute ça, là.
Ben, j'espère, parce que... Je t'aime.
Des frissons, tu sais. Ben oui, mais c'est vrai, comme souvent, on est comme dans le cliché de ce qu'on veut, l'idéal, mais c'est pas ça pendant tout, là. Non, la vérité, c'est comme la connexion émotionnelle que t'as avec l'autre personne, puis... physique un petit peu aussi. Ben mais comme c'est pas le premier truc, là. Non, c'est plus comment tu vous interagis, c'est l'un envers l'autre, donc les vraies relations humaines, là. C'est vrai, comme tu peux avoir une belle conversation sur Internet, puis là, tu rencontres la personne, ben, c'est pas du tout ce que tu pensais, là. Comme, je répète un petit peu ce que tu viens de dire, là, finalement. Mais voilà, c'était, écoute...
C'est vraiment édifiant.
Oui, mais si vous voulez aller lire cet article-là, c'est dans les affaires, je vais mettre le lien sur le site web des Geekettes, geekettes.ca, allez voir ça. Dans les show notes, les notes du show. Puis voilà, écoutez, allez lire ça, je trouve que c'est bien intéressant, il y a plus de détails que ce que je viens de dire, mais ça, écoutez, il y a de l'espoir, gang, il y a de l'espoir, là, je sais pas.
Y aurait-tu moyen de demander au monde de nous témoigner leur victoire sur les sites de rencontres?
Ouais, est-ce que vous avez des bons sites de rencontres à suggérer, ou que ça, est-ce que ça marchait avec vous? Oui, donnez-nous des commentaires là-dessus, ça serait vraiment le fun.
Bon, on passe maintenant à la switch à bitch. Je sens que j'ai beaucoup de rage contenue depuis les événements de Toronto qui sont passés la semaine dernière. Petit rappel, c'est qu'il y a eu un attentat ressemblant fortement à ce que... ISIS avait fait par le passé, en France, en Angleterre, entre autres, dans le fond, un camion blanc qui a... tué 10 personnes et blessé plusieurs autres. Et ce qu'on a su à propos du tueur, c'est qu'il serait déclaré comme un incel, donc un célibataire involontaire. Et je veux amener ça à la problématique des men right activists, dans le fond, les fameux méninistes, les gens qui tiennent absolument à ramener les droits de l'homme, entre guillemets, parce qu'on ne parle pas des droits de l'homme en tant que tel, comme étant, c'est une problématique, puis que le féminisme n'est pas égalitaire, n'est pas inclusif.
Selon ce qu'ils disent.
Selon ce qu'ils disent, et les doubles standards en général. Bref.
Ouais. Parce que faut juste dire ici, nous autres, on est un podcast féministe.
Oui, oui.
Donc ça, c'est notre base, là.
Notre idéologie, voilà.
Exactement, oui. Ouais.
Et comment je pourrais dire? Nous, Ben, je sais pas toi si tu as une vision du féminisme qui est différente de la mienne, mais moi, elle est vraiment inclusive. Les hommes sont considérés dans le féminisme.
Ouais, ouais, moi, c'est égalitaire aussi. Ça touche tout le monde. C'est pas parce qu'on utilise le mot féminin dans féminisme que c'est juste pour les femmes. C'est juste une appellation. Puis pour moi, ça inclut tout le monde. C'est pas les hommes à part, c'est justement pour mettre tout le monde sur le même niveau. Puis moi, c'est un féministe aussi intersectaire, c'est comme ça qu'on dit? Ou est-ce que... peut-être que je me trompe de mot. Parce que... où est-ce que tous... Si tu es pour l'égalité... Ouais, intrinsèque, ça se peut... Je sais pas.
Ça prend le point d'être intrinsèque, comme ça.
Je vais regarder sur Google tantôt. Mais c'est où est-ce que tout le monde est inclus, donc toutes les races aussi.
Donc les femmes trans sont des femmes, puis tu sais, il y a, oui, pas plus ou moins de droits que nous autres, puis voilà.
Exactement.
On n'a pas de white feminism, on n'a pas de comment je peux dire, de classicisme dans notre gestion du féminisme. Et mais c'est ça, ça en revient au fait qu'on a parlé de OkCupid, et justement, les célibataires involontaires sont des hommes, même si le terme a été corneré par une femme, dans le fond, c'était une femme homosexuelle qui avait fait un article à l'époque, je pense dans les années 90, sur son célibat involontaire, puis sa difficulté à trouver l'âme sœur, puis c'est que ça a été adopté par ce regroupement-là sur des sites un peu comme 4chan. Il y avait Reddit à l'époque, mais ils ont fermé le compte des incels parce que justement, ça devenait des propos haineux. Et il est là le problème. C'est le fait que le célibat forcé de ces hommes-là est passible de violence. Et j'ai lu des horreurs cette semaine, j'ai lu des choses, des trains de pensée qui étaient comme, ben, pour ceux-là, pour les femmes qui ont fait l'erreur d'avoir un enfant avec quelqu'un, puis d'être monoparentale, nous, on offre la possibilité de devenir père adoptif pour l'enfant.
Arc!
Et d'avoir le droit de marier cet enfant-là. Et qu'elle devienne notre femme par conséquence, parce qu'on a donné ce temps-là pour eux autres. Donc, la technique Woody Allen, c'est tout ce qui est de partager comme idée et lugubre là-dedans. Puis c'est
vraiment malsain. Mais la violence faite aux femmes, là, en général, on n'en parle juste pas assez, puis c'est vraiment quelque chose qui se passe, puis qu'on n'en parle pas.
Ou quand on en parle, quelqu'un va aller commenter en disant « Ouais, mais qu'est-ce qu'il y en a des violences faites aux hommes? Il y en a des hommes qui sont violés. »
Oui, c'est sûr.
On est conscient. Tu sais, on englobe les victimes d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, on les met dans le même panier, mais il faut quand même considérer que la majorité est féminine.
Puis aussi, les femmes sont moins fortes physiquement que les hommes, fait que souvent, les résultats, c'est que la femme
va subir des blessures beaucoup plus graves.
Exactement. Puis aussi, des fois, ça en résulte à la mort, là, malheureusement.
C'est ça. C'est que souvent aussi, ces actes-là sont commis de façon impulsive. De la rage gardée en dedans, puis ça en vient à tout le concept de masculinité toxique. Écoute, il y aurait tellement longtemps à parler avec ça.
C'est un gros sujet.
C'est vraiment un gros sujet. Je pense qu'on va faire une heure là-dessus. Ouais. C'est qu'il y a tellement de... Il n'y a pas d'écoute qui se fait. Les hommes ne sont pas tenus à exprimer leurs sentiments. Donc, quand ça arrive, ça explose. Il y a pas... On n'accepte pas qu'un homme pleure, on n'accepte pas qu'un homme dise comment il se sent, comment...
Ouais, mais c'est pour ça que le féministe existe aussi, c'est pour dire que, hey, tu sais, les hommes, ils ont le droit de pleurer, ils ont le droit d'avoir des émotions, ils ont le droit de...
T'sais,
être féminin, c'est pas négatif, là.
C'est tout le monde, si vous embrasseriez tout le féminisme, on n'aurait plus de problème!
C'est ça!
Ah, oh, non, ouais. C'est ça. Fait que moi, c'est ça. C'est pas tant une switch à bitch, une switch à tanner. Je suis fatiguée de tout ça.
Mais en même temps, c'est important de parler de ces choses-là. Mais tu sais, il y a aussi un problème de santé mentale là-dedans.
Non,
c'est comme une autre affaire. Là, on va vraiment à un autre niveau, là. Mais tu sais, c'est sûr, il y a des. Tu sais, c'est de la question, est-ce qu'on. Tu sais, ce gars-là, il allait pas bien, là.
Mais c'est encore une fois, c'est le tabou d'aller parler, c'est le tabou d'aller voir un psychologue, de se faire référer à peut-être un psychiatre, ou... Tu sais, il y a des niveaux, mais juste de pouvoir parler à quelqu'un, d'avoir un travailleur social qui t'écoute, puis qui dise « ouais, je sens qu'il y a peut-être un trop-plein émotif en ce moment, il y aurait peut-être moyen de régler ça avec des solutions, puis il y a des solutions à tout. »
Donc, au final, c'est quoi la solution à ce problème-là? Mais c'est sûr que d'ouvrir la discussion, de communiquer, de faire valoir son point de vue autre que sur des forums louches d'Internet, je pense.
Ben,
que...
Ben c'est ça, tu sais, je vais faire un parallèle rapide avec les pro-ana, les anorexiques qui s'entraident entre elles à ne pas manger. C'est le fun d'aller chercher de l'aide vers les gens qui nous ressemblent, mais c'est sûr qu'il y a toujours des personnes toxiques, puis il y a toujours des groupes qu'il faut éviter. Puis à ce moment-là, t'sais, une gang de gars frustrés ensemble, ça fait juste se pomper ensemble, puis ça se met à haïr ensemble.
Ça, c'est ça, ça pourrait être une gang de filles frustrées, t'sais, aussi, là, comme ben, tu dis justement là, ton lien avec les pro-anorexiques, là.
Ben oui, c'est ça. Si la même chose, on avait une gang de femmes qui détestent les hommes, puis qui continuent à dire que c'est des chiens sales, puis tout ça, tu finis par, comme, avoir ces idéaux-là, puis te dire « Ah, oh, ben oui, c'est vraiment ça la vérité, puis...
C'est important aussi d'avoir des discussions avec des gens qui n'ont pas les mêmes opinions que toi-même, parce que justement, ça te fait réfléchir, parce que c'est le fun d'être avec... T'sais, c'est le fun d'être en gang d'amis qui ont toutes les mêmes idées, mais à un moment donné, c'est parce que des fois, t'as peut-être tort, puis tu le sais pas non plus.
C'est ça. Faut développer son sens critique.
Oui.
Définitivement.
Oui. Hey, moi, je trouve que ça termine bien le segment. Oui.
Donc...
sur ça, on va passer à de la lecture de... ta lecture, puis il y a une série télé, donc on passe à ça tout de suite.
D'accord.
La librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario S. Visitez leur site web librairiez.com. Donc, pour le Club des Geekettes, Constance, tu vas nous parler d'une série télé, est-ce qu'on peut dire ça encore, en 2018 sur Netflix, là?
Une série documentaire, je pense que le
terme...
Ouais,
un peu ça, ouais.
Ouais. Dans le fond, oui. Excusez, je suis en train de m'étouffer. Je parle dans le fond, de la série documentaire Wild Wild Country. Je pense que tu l'as vu, toi.
Oui, je l'ai vu au complet aussi.
Oui, ça a été vraiment une expérience pour moi. C'est comment je pourrais dire? Tous ceux qui sont fans de culte, justement, d'histoire, moi, c'est quelque chose, étrangement, qu'on n'a pas entendu parler au Québec, mais pas du tout.
Ouais.
Tu sais, je me suis informée avec des gens qui étaient adultes à cette époque-là. J'ai dit à ma mère, est-ce que tu as entendu parler des Sanyasins? Puis elle était comme, non. Puis on a commencé à regarder le documentaire, puis elle dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Puis c'est que ça s'est pas rendu au Québec, on dirait, comme histoire. Mais il y avait des Sanyasins à Montréal. Il y a eu un article de la presse qui est paru la semaine dernière qui expliquait qu'il y avait une commune dans Outremont d'environ 70 personnes qui vivaient selon les préceptes justement du Bhagwan Rajneesh, puis qui prévoyait aller faire construire une commune semblant à celle qu'on voit dans le documentaire, mais dans les cantons de l'Est. Mais, comme le documentaire l'explique, ça a été un projet qui a échoué à la fin des années 80, donc le projet au Québec aussi a échoué.
C'est quoi des Sanyasins?
Les Sanyasins, c'est ça, c'est les disciples d'Osho ou Bhagwan Rajneesh, qui était dans le fond un gourou indien, qui avait son havre de paix à Pune, en Inde, et qui, par la popularité de son mouvement, c'est vraiment un culte de la personnalité. Les gens vouaient un amour incroyable au Bhagwan, puis tout le monde voulait le rencontrer, le toucher. C'était vraiment dans l'ère du New Age des années 70,
là, ouais.
C'est ça, là, c'était vraiment... tu sais, on emprunte de plusieurs religions, puis on crée une espèce de philosophie de vie que les gens se mettent à adorer et à...
Puis il y avait quelque chose aussi il y avait beaucoup de liens par rapport à la révolution sexuelle aussi de l'époque, là, avec ce mouvement-là qu'on ne retrouvait pas dans les autres religions, là.
Voilà, c'est ça. C'est que le Rajneesh parlait beaucoup de... de révolution sexuelle, de... capitalisme, de l'argent. Il roulait en Rolls-Royce.
C'était une bonne chose, c'est ça. Positif,
c'est correct d'avoir des biens, c'est correct d'avoir les moyens. Ça attirait justement tous les grands avocats, tous les intellectuels de ce monde qui allaient justement faire la méditation en Inde, puis tout ça. Puis suite à ça, l'assistante, la secrétaire de Bhagwan a décidé de... Ben, a pris les rails de l'entreprise, parce que c'était carrément une entreprise, et ont déménagé en Oregon. Puis c'est ça qui est fascinant du documentaire, c'est qu'on voit tout le côté préparation politique, comment ils se sont installés, comment ils ont pris possession du village voisin. Ouais. C'est vraiment quelque chose de fascinant parce que tu vois cette espèce de combat-là des pauvres personnes âgées qui sont dans leur petit village de 40 personnes qui doivent se battre contre 7000 nouveaux arrivants qui ont réussi à tout twister les lois, c'est mm-hmm. ça, puis les politiques pour arriver à leur fin. Puis ça fait juste escalader là. À chaque épisode il se passe quelque chose de plus qui devient vraiment spectaculaire.
Ouais.
Puis je faisais le comparatif avec une autre série qui a fonctionné beaucoup qui était Making a Murderer. Contrairement à Making a Murderer, on voit vraiment les deux côtés de la médaille. Et ça c'est quelque chose qui manquait justement à l'autre documentaire, c'est qu'on voyait juste le côté de la famille Avery, puis on était convaincus à la fin du documentaire qu'il était innocent.
Making a Murderer, c'était un podcast ou c'était une série?
C'était une série documentaire sur Netflix. Okay. C'est vraiment, là, j'ai comparé des pommes avec des pommes.
Ok, parfait.
Mais c'est ça, c'est vraiment que c'était vraiment une série qui était basée sur le meurtre d'une femme qui avait... C'est ça, et là, le principal...
Ok, parfait.
C'est ça, pour faire le comparatif, c'est ça, on avait vraiment juste comme le côté du présumé assassin, puis justement avec l'idée que à la fin, on était juste convaincu qu'il l'avait jamais tué, tandis que là, c'est ça, avec Wild Wild Country, c'est qu'on voit vraiment autant les villageois que les Sanyasins, puis aussi, c'est qu'on voit aussi une espèce de nostalgie. Du côté des Sanyasins, tout le monde en parle avec du rêve, des beaux yeux illuminés,
ouais,
puis tout ce qui est vraiment grave, parce qu'il y a quand même des histoires de complots, d'assassinats, puis d'empoisonnement, puis il y a vraiment des choses over the top, mais tu vois qu'ils en parlent comme mais tu sais, c'était vraiment rien, fallait se défendre, mais tu te dis, mais c'est incroyablement grave, mais c'est qu'ils ont ces espèces de petites lunettes roses, là, qui font comme, mais ça, on était dans nos droits de faire ça.
Ils sont un petit peu endoctrinés, là.
Oui, oui, mais c'est ça, tu vois que personne n'a vraiment lâché le mouvement, ouais, tu sais, sais que, justement... Il y a l'avocat, justement, de Osho qui a quand même une grosse partie, mais tu vois, il est souvent, il a les larmes aux yeux, puis il est émotif, puis... Lui a rechangé son nom ensuite pour son original, mais dans le documentaire, tout le monde utilise leur nom qu'il y avait à l'époque.
Okay.
Mais c'est ça, c'est que même s'il a changé son nom, tu vois qu'il est encore vraiment accroché. Ouais. Il y a personne qui a lâché le bagouane, puis tout le monde est encore...
Ça existe encore aussi,
c'est ça. Il y a encore des cellules un peu partout, il y a encore un centre à Puna, les gens peuvent encore aller faire des méditations, puis comme je parlais des Sanyasins de Montréal, ils ont fait une réunion l'an dernier, puis au coût de 229$, tu pouvais passer une semaine avec tes anciens collègues des années 70 et faire de la méditation active et crier et danser et... faire tout ce que vous voyez dans le documentaire.
Ouais, c'est assez étrange. Comme, qu'est-ce que tu vas voir dans le documentaire? C'est des choses... Moi, je me suis posé la question, OK, ben là, est-ce qu'on parle d'une secte? Est-ce qu'on parle d'une religion, d'un mouvement? Tu sais, je me suis posé la question, c'est où la limite? Là, puis c'est drôle parce que dernièrement, cette semaine, il y avait sorti dans les nouvelles, justement, là, qu'ils voulaient être plus sévères sur, justement, tout ce qui était secte, parce qu'il n'y a pas vraiment de définition officielle.
Non, c'est ça. Dès que tu te ramasses à avoir un groupement qui croit à une... Puis à quel point ces gens-là croient, à quel point ces gens-là font juste... utiliser la méditation pour se sentir mieux, tu sais, à quel point les gens considèrent Osho comme une divinité versus juste une personne spirituellement intéressante.
Ouais.
C'est...
Parce que c'est assez fascinant dans le documentaire aussi, Osho, justement, la manière que les gens, dès qu'ils arrivent, c'est comme une rockstar, là.
Oui, les gens pleurent.
Tu sais, sont en admiration, t'es comme, ben voyons, voir que... Tu sais, toi, tu le vois à la télé, c'est un vieux monsieur avec une barbe qui a l'air un petit peu... à pas sentir trop bon,
t'sais. Mais son speech pattern, c'est la façon qu'il prononce ses mots, le fait qu'il finissait toutes ses phrases avec « chut », quand il parle, c'est quelque chose de très ASMR, très relaxant, très... Moi, quand j'écoutais, j'ai fait « Ok, je peux comprendre l'espèce de côté méditation, l'espèce de côté... » On écoute ses paroles, puis on écoute la façon, toute la façon qu'il prononce, c'était toujours des termes comme ça.
Puis, toujours il comme... devait être extrêmement charmant, là.
Oui,
ça devait être un personnage très charismatique.
Il avait un don d'hypnotisme, là. C'est pas mal sûr, là. Il a dû en hypnotiser une copine.
Oh, ouais, c'est sûr, là. Mais non, c'est ça, mais continue.
C'est vraiment... Ouais. c'est à voir, je le suggère fortement, puis... Ah, allez voir ça.
Je suis vraiment d'accord. Moi aussi, je m'attendais... Quand je l'ai écouté aussi, puis je m'attendais pas à ça. Mm. C'est vraiment quelque chose qui te... Un documentaire puis, qui te garde
épisodes,
sur...
6 épisodes d'une heure. Ouais. Donc, vous perdez juste comme 6 heures de votre vie. C'est pas super. Non, vous perdez pas.
Vous gagnez
les connaissances de 6 heures de votre vie, puis vous allez vouloir chercher d'autres informations là-dessus. Vous allez faire comme moi. Vous allez lire des articles. Vous allez
te perdre dans Wikipédia.
Je suis pas encore rendue à écouter des audios d'eau chaud, mais je me dis qu'à un moment donné, ça va peut-être donner.
Bon, ben merci beaucoup, ben Constance. Hey Geneviève!
Oui, Fanny!
Savais-tu qu'on a maintenant un bouton PayPal sur notre site de la vie secrète des geekettes?
Hein, waouh! Mais Fanny, pourquoi un bouton PayPal?
Parce que ça arrive à l'occasion qu'un auditeur nous demande de quelle manière ils peuvent nous encourager.
Donc, auditeur, si tu aimes notre podcast et que ça te tente de nous encourager à financer notre hébergement, notre matériel audio et nos futures lectures, dirige-toi vers notre site web
et clique le bouton PayPal!
Clique le bouton PayPal! Clique le bouton PayPal! Clique le bouton PayPal! Clique le bouton PayPal!
J'ai dans mes mains un beau livre en papier qui s'appelle Paper Girls!
Oui! Exactement! Moi, je parlais d'une bande dessinée. Je me garde dans le papier. Dans la presse, pas la presse, là, mais le papier, le concret.
Ouais, définitivement.
Donc... aujourd'hui, je vais vous parler de Paper Girls, scénarisé par Brian K. Vaughan. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce.
K. Vaughan, ouais, Vaughan. Moi, c'est comme
Vince Vaughan. Vaughan.
Ouais, c'est Vince Vaughan. C'est ça, on dit Vaughan.
Vaughan. vous connaissez sans doute si vous avez lu Saga, la bande de la série Saga. C'est lui qui est le scénariste de cette série-là.
Mm-hmm.
C'est dessiné par Cliff Chiang, qui a dessiné Wonder Woman. Je ne le connaissais pas, l'illustrateur de cette bande dessinée.
Je tiens à dire qu'il y a une très belle plume en ce moment. Je suis en train de feuilleter.
Oui, mais je laisse Constance feuilleter le livre pendant que je fais ma petite critique. les couleurs, c'est Jared K. Fletcher, qui sont très jolies, mais je vais en parler plus tard. Et c'est publié chez Image Comics.
Oui.
Donc, moi, je ne vais pas spoiler rien. Je ne vais pas vous gâcher quoi que ce soit.
J'ai-tu spoilé tantôt?
Non, pas du tout. Mais c'est ça. Non, je le dis parce qu'avant, dans les geekettes, on spoilait souvent.
Oh.
Puis là, je me suis rendu compte que moi, quand j'écoute des podcasts, j'aime pas ça quand les gens me spoilent les histoires.
Non, en effet. Mais
puis j'aime mieux comme parler de quelque chose sans, tu sais, dire les intrigues. Je trouve que ça se fait très bien. Puis tu peux dire ton opinion sans problème. Donc, voilà la raison pour laquelle je gâche plus rien. Voilà. Donc, l'histoire, OK, c'est bien simple. C'est dans les petites heures du matin, juste après l'Halloween, en 1988. C'est un groupe de 4 jeunes filles de 12 ans à peu près, qui sont des livreuses de journal. Et puis, il va arriver des péripéties.
Mm-hmm. Puis, ça a l'air d'être assez over the top, parce que je vois.
Donc, puis... En fait, c'est le personnage principal, Erin. C'est lors de sa route où est-ce qu'elle va livrer le journal, justement, après l'Halloween, donc le matin suivant l'Halloween.
Donc le 1er novembre.
Exactement. On va dire ça de même, c'est plus simple. Le 1er novembre, elle va livrer le journal, puis est-ce qu'elle se rend compte, c'est que l'année dernière, ces filles-là, ils ont décidé de se mettre ensemble pour justement aller faire la livraison. Parce que sinon, il y avait trop de monde bizarre sur la route, genre des jeunes, des adolescents qui sont déguisés, puis qu'on se trouve encore, qui font le party. Ouais. Fait qu'ils ont décidé de se regrouper ensemble. Puis ce qui est particulier, c'est que dans le groupe d'amis, t'as Mackenzie, qui est comme celle sur la page couverture, qui fume une cigarette, qui est bien la petite toffe, là. Elle, c'est la première fille qui a commencé à livrer les journaux.
Je pensais à Peppermint Patty, un peu.
Ouais, mais tous les gens d'archétypes, un peu de personnages un peu... un petit peu plus rough, mais en version fille de 12 ans, tu sais.
Mm-hmm.
Puis elle fume de la cigarette, puis, tu sais, elle a plus, un petit peu, plus confiance en elle, elle est plus courageuse que les autres, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que ça devient un petit peu comme un modèle pour le groupe des 4 filles. Puis, donc, spécialement Erin aussi, qui est comme, ah, ben, tu sais, je suis nouvelle, je connais pas encore, tu sais. Ils sont quand même... Donc, ça devient un petit peu comme un leader du groupe. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver, c'est que, bon, ils se rencontrent ensemble, décident de continuer la route. Puis là, éventuellement, ils vont rencontrer un groupe de jeunes qui vont leur « jeunes » entre guillemets,
mm-hmm.
qui est un petit peu bizarre, là. C'est pas vraiment un groupe d'adolescents, qui est un peu étrange, mais qui va leur voler un de leurs walkie-talkies. Les affaires qu'on avait dans les années 80, là,
ouais.
Avant les téléphones cellulaires.
Ouais, c'est ça, pour les jeunes, c'est l'équivalent de se faire voler son iPhone. Genre, juste la partie microphone.
Ouais, pas, y a pas d'image, rien. Donc, ils se font voler ça, ça a coûté vraiment cher. Ils sont comme en honte, je me suis fait voler mon walkie-talkie. Donc, ils vont partir à la recherche de ces voleurs-là. Et évidemment, sur la route, il va s'en suivre diverses aventures que je ne dirai pas. OK, donc l'histoire en tant que telle, déjà, ça se passe dans les années 80.
Donc, il y a un petit mood Stranger Things.
Exactement, c'est tout à fait ça, Stranger Things. Cependant, ça a été publié avant Stranger Things. C'est en 2015. Stranger Things, c'était en juillet 2017, je crois.
Ah, OK.
Donc, 2017? Non, c'est 2016, je crois, Stranger
mais
Things.
Mais on est quand même dans les années...
2017, que, justement, ouais. Donc, c'est un petit peu avant, mais tu sais, c'est comme l'inconscient collectif, un peu. On veut entendre des histoires de nostalgie. On est tous les créateurs de la trentaine. Qui ont tous 30 ans à peu près, fin trentaine, on pense à ces années-là. Donc, c'est très inspiré. Pense à E.T., Back to the Future, les classiques science-fiction. Cette histoire-là, c'est vraiment ce mood-là qu'il y a, même dans les couleurs. Si tu regardes les couleurs dans la bande dessinée, c'est très pastel. Des mauves, des roses, pastels. Ça fait, tu sais, c'est vraiment très beau. Moi, la couleur, je l'ai vraiment adorée, là, le travail, la recherche qui a été faite.
Tu sais, on voit vraiment les vêtements, ça rappelle beaucoup Back to the Future, là. On est vraiment dans les mêmes années.
Il y a des petits bracelets, tu sais, comme des genres de jackets, là, un peu années 80, ouais, là, beaucoup ça. T'sais, l'ambiance, c'est vraiment, t'sais, c'est fantastique. Mais pas fantastique, c'est plus science-fiction. Puis c'est sûr que t'sais, ça, si t'aimes ce genre d'histoire-là, tu vas aimer ça. Mm-hmm. Moi, j'ai acheté le volume 1, le premier trade paperback, puis je l'ai, c'est seulement 10$ en plus. Je l'ai regretté parce que je trouvais que il faudrait quasiment que j'embarque dans le deuxième volume tout de suite après parce que c'est un peu comme l'intro. C'est quand même, okay. Tu sens que l'histoire est assez...
Les personnages sont introduits.
Oui, les personnages sont introduits. Mais c'est assez complexe déjà, comme il y a beaucoup de personnages dans ce premier volume-là. Puis, moi, j'en ai fait une première lecture, puis il fallait que j'en fasse une deuxième lecture pour essayer de bien comprendre, comme si tu lis trop vite, tu sais, ça peut être un peu difficile à comprendre. Donc, c'est juste l'intro. Tu sens vraiment que le scénariste, il y a une idée de grandeur en arrière de tout ça. Il a pensé à tous ces éléments. Okay. Si tu dis saga, c'est sûr que ça fait penser à saga aussi.
Ouais.
Parce que c'est un petit peu étrange, c'est un petit peu mystérieux. Tu sais pas où est-ce que ça s'en va, il y a beaucoup de personnages, donc ça fait beaucoup. Si t'aimes saga, c'est sûr que tu vas aimer ça, ce qu'il vient de faire, lui.
D'accord. Ouais, non, c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment juste de s'assurer à ce moment-là de peut-être prendre une série complète pour commencer, puis...
Ben, je dirais prends les deux premiers.
Les deux premiers?
Ouais, ouais. C'est quand même... Je suis certaine que tu le regretteras pas, surtout si t'aimes ça, ce genre d'histoire-là.
Ben, moi, ça vient tout le temps me chercher, là. Les Ellie, c'est ma vie, là. C'est vraiment, là, s'il y a quelque chose, là, moi, je pars en auto, là, je mets une compilation Ellie's, là, puis je pars, puis je consomme de l'année 80 encore à outrance.
Ouais. Puis c'est quand même frais de voir des personnages chez des filles aussi.
Oui.
S'il n'y en a pas tant que ça, c'est sûr que de nos jours, il y en a de plus en plus, là, de cette, tu vois, ils cherchent ce genre d'histoire-là.
C'est le fun, mais c'est des ados.
Oui, c'est des filles. En fait, elles sont vraiment sur le bord de tomber dans son... c'est les dernières années de l'enfance. Ils ont 12 ans, les filles.
12-13 ans, moi, tu vois
que... C'est comme l'espèce de switch un peu bizarre entre l'enfance et l'adolescence. Mm. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Tu sais, ils parlent des thèmes là-dedans aussi, de ce thème-là, justement, là, du...
C'est un coming of age story, dans un sens.
Exactement. Puis aussi, y a l'amitié, exactement. Ça va parler de ça. Là, c'est ça, dans le premier volume, c'est pas très fort, les liens encore. Ils viennent se rencontrer, ils rencontrent d'autres personnages. Mais je sens que ça s'en va par là, un peu.
Mm-hmm.
Puis c'est sûr, moi, je me demandais si un adolescent pouvait lire ça. Je pense qu'à partir de 13 ans, c'est correct. Il y a quand même un petit peu d'armes là, que tu vois à l'intérieur du premier volume. Je sais pas où est-ce que ça s'en va. C'est à voir. C'est un peu weird. Je dirais un adolescent, 14 ans, ça serait correct, là, pour l'instant, mais je veux pas trop m'aventurer là-dessus.
Mais un adulte va avoir bien du fun.
Un adulte, c'est sûr. C'est que tu aimes ce genre de... Ça tente d'entrer dans ce trip-là parce que ça semble être... Tu sais, saga, c'est quand même extrêmement long. Cette histoire-là, j'imagine... Je pense qu'on est rendu à 4, là, volume.
Je pense qu'une série du genre m'attire plus, moi, parce que, je veux dire, j'aime... Autant que j'aime le sci-fi, autant que j'aime avoir des référents que je comprends. Puis Saga avait le problème que c'était dans un autre univers complètement, que c'était des races extraterrestres qu'on connaît pas.
Très créatif, c'est ça,
c'était exactement, c'était quelque chose de très, très créatif. Tandis que moi, j'ai toujours cette espèce de besoin-là d'aller chercher des racines de choses qui ont déjà été faites avant.
Que tu connais, que tu connais les références.
C'est ça. Fait que moi, si je feuille puis que je vois des allusions à la guerre froide puis que je vois des... je vais trouver ça bien drôle. Puis je risque de plus, justement, être attirée par ça. En tout cas, moi, il m'intéresse vraiment beaucoup.
Ben écoute, je te le passe.
Yeah!
Live comme ça. Puis moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je suggère fortement. Évidemment, si tu as ce genre d'intérêt-là, si t'aimes ça. Puis achète les deux premiers, là, sérieusement. Mm-hmm. Là. Va à la librairie Z te procurer ça, notre commanditaire. Oh. Voilà. Donc, c'était ma critique.
Le son des sirènes. À l'heure, juste avant la pénombre, c'était l'automne 2003. Je crois que je revenais du Chinatown.
Quand
on est entré en collision, ton mascara qui coule, ton hoodie de Pixies. Bonjour le vertige,
c'est parti en vrille.
Tu as souri, tu as versé une larme.
Bonjour le vertige,
tu m'as dit.
Donc, je vais terminer cet épisode-là parce que, en fait, je me demande un petit peu où est-ce que les geekettes s'en vont. Vous avez remarqué que Geneviève, mon autre co-animatrice, n'est pas sur le show en ce moment, puis elle va être un peu moins présente. Elle va être, une fois de temps en temps, qu'elle va pouvoir parce qu'elle est rendue quand même très occupée parce qu'elle est travailleuse autonome. Puis, ça demande beaucoup de temps, donc elle a moins de temps pour faire le show, puis c'est bien correct. Comme ça, chacun, on a tous nos priorités, on est tous occupés dans la vie. Mais c'est juste que moi, évidemment, tu sais, j'étais avec Constance. Constance, là, t'es très... C'est le fun de faire le choix avec toi.
Merci.
Aussi, c'est sûr que je peux trouver d'autres gens. Mais ça reste toujours un petit peu d'organisation pour moi. Puis je sais pas trop aussi où est-ce que je m'en vais avec le show des geekettes en ce moment. Je suis un petit peu dans un flou. Pour l'instant, je vais continuer à faire le show une fois par mois. Mais j'aimerais savoir vos commentaires. Toi qui nous écoutes en ce moment, qu'est-ce que t'aimerais plus entendre dans le show? T'aimes-tu le show? Tu veux-tu que ça continue? Est-ce que ça arrête, ça te dérange pas? Puis tu vas nous suivre dans d'autres projets? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Constance?
Ben, moi, je pense que c'est toujours intéressant un podcast, puis c'est toujours intéressant d'avoir justement cette force féministe-là, ce côté féminin, parce que le monde des podcasts, c'est quand même quelque chose, un milieu très masculin. Mais c'est sûr que c'est bien d'avoir une structure, tu sais, c'est bien d'avoir comme un concept, comme j'ai participé à des podcasts récemment, je peux pas dire de la compétition, mais chaque podcast auquel j'ai participé avait une thématique, une façon de fonctionner qui était bien définie.
Ouais.
Fait que c'est sûr que ça peut être une option, ça peut être une idée de se pencher et de dire comme, ok, on fait ça de cette façon-là, on raccourcit à travailler juste un sujet ou on y va plus d'actualité. Tu sais, il y a vraiment comme...
Ton show là, peut être ça, différentes c'est, choses.
C'est ça. Sans nécessairement renommer le podcast, il y a moyen de pouvoir y amener une nouvelle couleur. Fait que c'est ça. C'est de voir qu'est-ce que tu vois avec ça. Moi, c'est ça, j'ai pas... Vite comme ça, j'ai pas d'idée parce que j'aime bien ça venir faire mon tour. Mais...
Non, c'est sûr, c'est pas une décision évidente pour moi à faire, puis ça dépend de mon temps aussi. Tu sais, moi aussi, je suis quand même bientôt à 37 ans, hein, ça paraît pas de même. En tout cas, moi, je trouve que ça paraît pas de même. Mais, tu sais, c'est comme, j'ai comme une autre vie que là, peut-être 3-4 ans, tu sais. Donc, je me pose des questions, tu sais, je suis rendue là, dans ma vie, je m'ouvre à toi, je m'ouvre là, puis je sais pas trop où est-ce que ça s'en va, là.
Tu sais, moi aussi, de mon côté, j'ai des projets, puis ça serait à voir si on peut trouver le moyen de fusionner nos projets ou quelque chose comme ça, tu sais, ça peut être une possibilité.
Ouais.
Fait que si on peut discuter ça off-mic.
Ouais, c'est bon, on en parlera. Fait que, envoyez-moi vos commentaires, j'aimerais ça savoir si vous avez des idées, soyez libres, envoyez-les, je suis... en plein là-dedans en ce moment, dans un no man's land de podcasting un peu, là. Donc, n'hésitez pas à me donner vos commentaires. Puis, en attendant, hey, on est toujours là. Puis, vous pouvez nous retrouver sur d'autres plateformes. Hein, Constance, où est-ce qu'on peut, toi, te retrouver?
Ben moi, c'est sûr, je suis principalement sur les médias sociaux. J'ai ma page Facebook, Constance Harvey Illustration. Et de façon un peu plus anonyme, je gère les médias sociaux du Grand Montréal Comedy Fest.
Que quoi?
Ouais, jusqu'au festival, jusqu'à la fin de l'été. Donc,
est-ce qu'on peut te voir comme tu sais, présente dans les shows ou quelque chose?
Sûr qu'il va falloir que je fasse un peu de couverture des événements. Fait que ça se peut que vous me voyez dans le fond de la salle avec un cellulaire à prendre des photos.
C'est bon.
Cool. Mais sinon, c'est ça. C'est fait vraiment Constance Harvey Illustration, c'est le meilleur endroit où voir mes gogos, mes dessins, mes petites billes, des niaiseuses.
Mais merci d'avoir participé à l'émission.
Merci d'avoir accueilli.
Je vais crier aigu, arrête ça.
Ah!
Allez, boy.
OK.
Puis nous, les geekettes, moi, vous pouvez me retrouver sur geekette.ca. C'est moi qui s'occupe du blog, du site. Aussi, la page Facebook de La Vie Secrète des Geekettes, Twitter, Vie de Geekette avec un S. On a un Instagram aussi, parce qu'on est rendu là, hein, en 2018.
Technologie.
Hey, wow. Puis, puis c'est ça, écoutez, écrivez-nous. Donnez-nous des commentaires, puis on va se revoir le mois prochain.
Oui.
Puis, c'est ça. Passez un bon mois.
Oui, amusez-vous.
Ouais.
Ciao, ciao. Printemps, les terrasses,
allez-y. Oh oui, les terrasses. Yes. Bye.
Bye.